tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver en ce lundi 9 avril pour cette 19e émission d'Oxyfoot, la seule émission radio qui vous parle du football amateur en Occitanie. Aujourd'hui avec moi autour de la table, le taulier de cette émission, évidemment, il est là, Quentin Marais. Salut Quentin.
Bonsoir Romain, bonsoir messieurs.
Comment ça va?
Très bien.
Est-ce que vous êtes prêt pour le quiz?
Et il faut.
Bon. Vous ferez équipe avec Léo Moulinier qui est en face de moi. Salut Léo, comment ça va?
Salut Romain, comment ça va tout le monde? Moi ça va bien.
Tout le monde va bien ici, hein, je pense.
Prêt pour le quiz aussi. Hein.
Prêt pour le quiz, justement, j'allais te poser la question parce que comme tu marques beaucoup de
ouais,
points.
Ouais, je sais que je suis.
Je me demande si depuis le début de la saison, vous avez marqué ne serait-ce que 10 points. Faudrait compter.
Faudrait compter,
on réécoutera. Ouais. Donc l'émission, vous le savez, vous pouvez le retrouver toutes les semaines en podcast. Sur Footpi, évidemment, les oranges sont représentées aujourd'hui par Xavier Bedos. Salut Xavier.
Bonsoir à tous, bonsoir Romain.
Xavier, pas besoin de réviser le quiz.
Là, c'est, bah, le quiz, c'est évident. Si tu veux, oui. Bon. C'est chaud quand même, parce que plus ça va, plus il se bonifie. Et je crois qu'il a des tustes dans les manches, un truc comme ça. Et je sais pas, faudrait le fouiller.
Il faudrait faire l'émission. Mon
alors, choix. Je suis sûr, là, en avance... Je suis sûr qu'il y a des questions sur Saint-Etienne. Vu que tu as le maillot de la SSE, il doit y avoir des questions sur Saint-Etienne.
Alors, il n'y en aura pas, mais si j'ai un maillot de la SSE aujourd'hui, c'est à l'honneur de notre invité, qui est le quatrième gardien que l'on reçoit dans l'émission après Cyril Garcia, qu'on cite à quasiment chaque émission, Rémi Goril, Florent Aitali. Bienvenue au gardien de l'US Castres, Jean-Marc Saonnet. Salut Jean-Marc.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Comment ça va?
Ça va.
Très bien. On est très heureux de vous recevoir. Et de faire la lumière un peu sur un autre club et un autre joueur d'une région, le Tarn, qu'on n'a pas encore, sauf erreur de ma part, reçu d'invité de ce district, de cet endroit-là, voilà, de l'Occitanie. Et bien, bienvenue à tous alors, et on va directement passer aux résultats du week-end. Et on commence avec des contre-performances pour nos clubs de N1 et N2, Quentin.
Et oui, Romain, a commencé par Rodez qui s'est encore incliné à domicile. 2-1 contre le Red Star, ça fait 3 nuls et 3 défaites en 6 matchs pour Rodez qui est éjecté pour la première fois depuis le début de saison du podium et qui accuse maintenant un retard sur le Red Star, qui a le même nombre de points que Grenoble et Béziers qui sont second et troisième, mais avec un match en plus. Donc la situation, c'est pas fini, mais c'est vrai que la tendance est plutôt... les dernières semaines sont compliquées pour Rodez.
C'est difficile, mais il faut se refaire. Jean-Marc, vous suivez un peu l'évolution de...
Oui.
Bon, on en parle chaque semaine, c'est vrai qu'un club en Ligue 2, ce serait super.
Oui, en plus, il se dit que peut-être ça serait du côté d'Albi s'il monte en Ligue 2, donc...
Comment ça ouais.
Ben, au niveau du stade, voilà, ça serait
pour y a des pourparlers, l'homologation.
Ouais, tout à fait. Donc bon, je pense que ça amènerait pas mal de monde, quoi. Donc,
c'est chouette, mais c'est un championnat très difficile national et il faut.
Oui, puis rappelle que Rodez est promu, hein.
Oui, bien sûr, c'est ça. C'est
qui relève un petit peu aussi la performance.
C'est déjà très fort, mais on souhaite qu'ils arrivent à se qualifier.
Mais c'est pas fini en tout cas, Romain, vous l'avez bien dit. En National 2, là aussi, une contre-performance, celle de Colomiers à Toulon. Défaite 1-0, coup d'arrêt pour Colomiers. Là aussi, 2 défaites et un match nul sur les 3 derniers matchs. Ils sont 3e à 2 points du leader Marignane. Là aussi, il y a un Marignane-Colomiers qui se profile dans quelques semaines, qui risque d'être capital pour la première place.
Oui, Colomiers notamment. Qui va affronter ses concurrents directs. Donc c'est qui tout double, hein. Peut-être que ça peut... Ils ont leur destin entre leurs mains.
Toujours. Et c'est Tarbes, par contre, qui est en bas de tableau. Là aussi, c'est incliné à la réserve de Nice. 3-2. En National 3, il y a eu des matchs en semaine avec la victoire de Rodéo, 2-0 contre Castanet. La défaite de Luznac à domicile, 1-0 contre la réserve de Montpellier. Et ce week-end, Fabregue a battu le Rodéo à nouveau 1-0. Luznac a battu Narbonne 3-1. Castanet et Mende se sont séparés sur un score nul. 1-1. Alès et Blagnac ont aussi partagé les points 0-0. Et la réserve du TFC a battu Balma 3-1.
Xavier, ce Narbonne-Luzenac, c'était un peu le match de la peur. Hein.
Oui, c'est ça. En fait, ils s'étaient retrouvés en barrage pour l'accession en fin d'année.
Et les deux étaient montés.
Voilà, les deux étaient montés. Et puis là, bon, c'était un match de barragiste, en fait. Et Luzenac, donc, qui remonte petit à petit au classement parce qu'en en fait, ils sont en train de gagner leur match en retard. Donc voilà.
C'est ça de jouer sous la neige, enfin de pas jouer du coup, d'être dans un.
Bah, c'est les avantages et les inconvénients, tout dépend. Bon, peut-être les Ariégeois, ils sont un peu plus habitués à jouer sous la neige que les autres, mais tout compte fait, ben ça leur a surtout permis de se refaire un peu un petit plumage printanier Et là, avec ces résultats, eh bien, ils sortent un peu de la zone dangereuse, même si ça va être serré jusqu'à la fin.
Oui, c'est pas fini.
C'est pas fini. Juste pour compléter les résultats, on avait reçu la semaine dernière, il y a 15 jours, Clément Salabert, pour signaler qu'ils ont quand même pris une petite tollée par la sélection Rhône-Alpes. Hein. Ouais. Ils ont pris 4-0. Bon, voilà, donc en fait,
Nous écoute, ça lui fera, voilà. Ça lui fera plaisir.
Non, je rappelle les résultats de la sélection occitane qui, bon, pour le coup, c'est pas top, quoi. D'ailleurs, il y aura des trucs à dire sur cette sélection.
Et un jour, il faudrait recevoir le sélectionneur.
Oui, parce oui, ils viennent de changer vu que l'ancien est parti, tout. Mais bon, cette sélection, en fait, c'est un peu, pour ma part, on ne sait pas trop à quoi.
Faudrait éclaircir ça. Mais pourquoi pas, voilà. Si on nous écoute sur Oxyfoot,
voilà, nous expliquer le pourquoi, le comment, parce que faire une sélection avec des gars de 28-30 ans pour faire des matchs entre ligues. Je ne vois pas trop ce que ça apporte. Si par exemple on déciderait de faire une sélection uniquement avec des gars de moins de 21 ans par exemple, bien ça permettrait d'aller chercher peut-être des pépites qui sont dans les clubs, qui ne sont pas passées par les centres, et là ça serait quelque chose de la découverte à la limite, et de récupérer des joueurs qui sont passés peut-être entre les mailles du filet. Bon, mais là on fait des sélections avec des mecs de 30 ans, 28 ans, 32 ans, bon, je ne comprends pas.
On va lancer le débat, Xavier. Sans aucun souci. Quentin, on revient au résultat. 1 sur 2 pour les 19 nationaux.
Oui, et la défaite du TFC à domicile contre Toulon, 2-0. Mais surtout, la très importante victoire de Colomiers contre l'OM de Buzyn, alors que les Colomiers étaient menés 1-0. Donc, un bon inversement de situation. Par contre, en futsal,
le TFC, oui, juste éliminé en Gambardella le week-end dernier.
8e.
Contre Tours.
Ouais, oui, c'est exactement. C'était il y a 10 jours. Ouais.
Donc, on ne gagne toujours rien. depuis l'éternité, depuis. Quoi.
Voilà. Ce ne sera pas pour cette année. En futsal, par contre, eh bien, 0-2. Bruguière a perdu à Paris 10-2. Et Roubaix a battu l'UJS 2-1. En R1, on peut retenir là aussi un match la semaine dernière, le 4 partout entre Aussonne et Pradine. Ce week-end, Muret, par contre.
8 buts.
4 partout.
C'est beau.
Ouais. Hein. Ouais, voilà.
Un beau match.
Et Aussonne perdait 3-0. Quoi.
Voilà. Ouais. En plus.
Voilà, ça va être un match de l'année.
Spectacle garanti, alors toujours en R1 ce week-end, Muret a continué sa marche en avant, Romain, le leader, avec 8 points d'avance et sa victoire à Luc Primob, 1-0.
Alors justement, pour nous en parler, nous recevrons lundi prochain Jean-Louis Fauré, qui est le directeur sportif muretain, et toujours, alors j'allais dire en DH, mais non, en R1, Quentin, la baie de Rodez suit le rythme.
Oui. En deuxième position, victoire 1-0 à Honnay-le-Château pour la baie de Rodez, qui a donc fait mieux que sa grande sœur. Et en bas de tableau, par contre, victoire capitale de Florence contre Revel, 3-1. Et enfin, en DHR, en R2, là aussi, la poule A est coup d'arrêt en tête, tout simplement, avec Pibrac qui fait match nul de partout contre Juillan. Et ni la baie de Tarbes ni l'Union n'en ont profité, puisque les deux ont perdu 2-1 à Fonsorbe et à Blagnac.
Et oui. Fonsorbe qui reste sur les 5 derniers matchs, 4 victoires sur 5 derniers matchs, ils sont sortis de la dernière place, enfin avant-dernière, pour remonter maintenant petit à petit. Il faut une légère petite remontada.
Exactement. Et Flo Hortal, qu'on avait reçu, que Quentin avait reçu, joue avec l'équipe 1, et on est content pour lui. Et pour finir, Quentin, on connaît les quarts de finale de la Coupe Occitanie.
Et juste avant, il y a la poule B de R2 avec.
Parlons de la poule B alors.
Et oui, avec la victoire de Colomiers dans un match au sommet. La baie de Colomiers qui gagne à portée 3-2 et Tournefeuille qui en profite pour distancer portée. Victoire 1-0 contre la baie du TMFC. Et là aussi, encore une fois, au classement, 43 points pour Colomiers, 38 pour Tournefeuille qui a un match en moins et 38 pour portée. Donc,
désolé.
Un grand coup à faire.
Pour parler de Tournefeuille, en plus, je ne suis pas le premier à couper, normalement. J'aime bien qu'on parle de Tournefeuille dans cette émission.
En plus.
Donc, Quentin, on connaît quand même les quarts de finale, c'est pas faux.
On les connaît, Romain, ce n'était pas une fake news. Avec Rodez, la baie de Rodez qui recevra Luc Primob, Bayard qui recevra Frontignan, la Clermontoise qui recevra Roussonnet et Porté qui recevra Albi. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on connaît aussi les potentielles demi-finales.
Oui.
Puisque le vainqueur de Bayard Frontignan recevra le vainqueur de Porté Albi et le vainqueur de la Clermontoise Roussonnet recevra le vainqueur de match la baie de Rodez contre Luc Primob.
Et on en parlait juste avant avec notre invité Jean-Marc Saonnet. Ouais. Ça vous plaît pas trop, ça, que même en quart, on puisse pas aller chercher un club de l'ancien Midi-Pyrénées qui puis jouer contre un ancien Landau-Crousillon. On attend que les demi-finales pour que les confrontations puissent...
Oui, c'est vrai que
ça vous gêne un peu ça, Jean-Marc ?
Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Voilà, le fait de pouvoir rebrasser un peu ces quarts de finale, ça aurait été bien que ça se mélange un peu, quoi. C'est vrai qu'après, bon, on parlait aussi des distances qui peuvent être assez importantes, hein. Voilà, c'est vrai que si on joue au fin fond du Gard et qu'on va jouer à Lourdes, bon, il y a quand même un sacré déplacement. Mais ouais, je trouve, alors est-ce que c'est le fruit du hasard ou pas ? On ne sait pas trop, mais voilà,
non, peut-être quoi, pas, peut-être, je sais pas, il faudrait
ça, il faudrait ouais, éclaircir, faudrait, mais ouais, c'est un peu dommage, quoi. Voilà, c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses de faites pour ça, ouais, c'est un peu voilà.
Merci Quentin pour ce tour des pelouses hebdomadaires. On va maintenant se focaliser sur le match qu'a suivi Footpi avec Xavier Bedos au Son Giroud en DH. Enfin en R1. Je dis DH encore. Mais
oui, non, mais on met DH, division d'honneur, et R1, donc
c'est R1, voilà, ouais.
Régional 1.
C'est DH.
Oui, ben là, un peu, c'était le match à ne pas perdre pour le Giroud. Et donc, et pourtant, ils l'ont perdu. Un week-end.
Le score, Xavier ?
1-0. Ah. Suite à bien. Alors, c'était un match un peu difficile parce que bon, ça se jouait à Aussonne. Énormément de vent sur tous les terrains ce week-end avec le vent d'Odan. Donc, c'est le pire c'est le pire pour un footballeur quand on joue. Et donc, la première mi-temps dominée essentiellement par le Giroud, ils n'ont pas su scorer. Et comme souvent c'est le cas, et bien sur la seconde mi-temps, sur un coup de pied arrêté, comme l'avait prédit un peu l'entraîneur Fred Larieux, Aussonne qui ouvre la marque et ensuite contre le vent, le Giroud a eu énormément de mal à revenir au score. C'est un coup d'arrêt parce que Aussonne, déjà pour eux, alors eux ils font une remontée incroyable parce que c'est les matchs en retard qui leur font remonter vite fait au classement. Alors on a des matchs en retard, mais il faut les gagner.
Il faut les gagner, oui.
Et eux, ils y arrivent. Ils ont fait des nuls incroyables. On l'a dit tout à l'heure, un 4-4 après avoir été mené 3-0. Et là, ils battent le Giroud sur un match de couperet. Donc, c'est pas très bon pour le Giroud. C'est très bien pour Aussonne, même si tout est serré, vu qu'ils se tiennent. Il y a quatre équipes en deux points, avec encore des équipes qui ont des matchs en retard. Et vraiment, ça va être serré jusqu'à la fin. Pour avoir un peu les réactions de Sébastien Salle, le coach du Giroud, il se retrouve dans une posture où le Giroud n'est pas habitué à ça, puisque ça fait, je crois, 4-5 saisons qu'ils sont en division d'honneur. Et après avoir gagné la Coupe du Midi et avoir fait des matchs incroyables, hein, notamment en Coupe du Midi aussi, et en championnat, en battant
souvent les premiers. Il y a un esprit au Giroud,
voilà, il y a un esprit,
du monde,
il y a un public.
Dans les tribunes, il y a un public.
Et là, ils sont vraiment déçus parce qu'ils n'arrivent pas à concrétiser leur match, quoi. Et malheureusement, c'est ce qui arrive quand une équipe elle est en perte de confiance. C'est ce qui arrive souvent. On prend des buts un peu casquettes au mauvais moment. Et ça va leur porter préjudice là jusqu'à la fin. Parce qu'ils vont rencontrer des équipes assez relevées. Il va falloir un peu de courage. Et j'espère qu'ils prendront des points à la maison, quoi. Voilà.
C'est une expérience d'aller jouer contre le Giroud là-bas. C'est vrai que... Il y a un COP, je ne sais pas si vous avez déjà joué, Jean-Marc. Mais
non, on les a reçus cette année, en 8e de finale.
C'est, je ne sais non, pas si les supporters avaient fait les
déplacements. Non, il n'y a pas trop de supporters. Non.
Mais c'est vrai qu'à Pêche-Beaunieu...
Oui, ils ont toujours un public avec
c'est un super, COP
et
là,
même une mascotte, le lapin, qu'on voit souvent au stadium d'ailleurs et lors des matchs de championnat de France de rugby. L'année dernière, ils étaient passés. Et si vous voulez, ils ont un COP et surtout vraiment une ambiance familiale. Voilà, donc c'est toujours bien de jouer dans un stade où il y a un peu de public.
Tout à fait.
Voilà.
Merci.
Donc, ce que j'avais à dire pour le Giroud.
Merci Xavier. Alors, il est 19h45, c'est l'heure de faire connaissance de notre invité, Jean-Marc Saonnet. Avec Léo Moulinier.
Exactement, Romain, merci. Bonsoir Jean-Marc Saonnet, vous allez bien ?
Bonsoir, ça va, merci.
Jean-Marc Saonnet, vous êtes donc né le 4 avril 1985.
C'est ça.
Bah, joyeux anniversaire avec du retard alors.
Mais merci.
On vous ne l'avez pas souhaité.
Eh ben non, malheureusement. On va ensemble revenir sur votre carrière parce que vous avez pas mal bougé.
Excusez-moi, Léon, il manque pas quelque chose là ?
Alors, c'était la question de qui a gagné la Ligue 1 ?
Bordeaux.
Eh bien, justement, je vous ai pris à contre-pied parce que je ne la fais pas exprès. Et je me suis dit, vous allez vous y attendre, je ne vais pas la faire exprès cette semaine. Elle reviendra peut-être plus tard.
Ok.
Affaire à suivre. Donc on va ensemble revenir sur votre carrière parce que vous avez pas mal bougé hein, quand même.
C'est ça.
Nous allons commencer lorsque vous aviez 18 ans. À cet âge-là, vous jouez donc à Carcassonne.
Oui, tout à fait. Ouais. J'ai eu ma formation à Carcassonne. Ouais.
Et est-ce que vous gardez des souvenirs de cette équipe ?
Oui, bien sûr. Oui. De très bons souvenirs, de très bons potes aussi. Il y en a encore quelques-uns qui jouent, notamment à la DH de Carca.
Donc, à l'époque, c'était CFA2, Carcassonne.
C'était CFA2, oui. Des grandes épopées contre Nantes, quoi. Ouais. 16e, 8e.
2000-2001.
Oui, tout à fait. Donc, 16e, 8e. Des très bons souvenirs. Voir l'Andro au stade Albert Domecq à Carcassonne, toute cette ferveur. Donc voilà, c'était des super bons souvenirs. Ouais, c'était une belle époque.
Badre Zugag.
Oui, tout à fait.
De 2004 à 2005, vous rejoignez l'AS Laure Minervois Aigues-Vives.
C'est ça.
Alors pourquoi vous faites ce choix de partir ?
Ben en fait, j'avais fait, je crois que j'étais resté 7-8 ans à Carcassonne. Bon, ça s'est pas forcément bien fini.
C'était qui le coach à l'époque ? Gomez ?
Ouais, c'était Iglesias Gomez, et qui ont été remplacés à la trêve par Aitouaret. Voilà. Donc moi j'étais avec le groupe CFA2. Voilà, troisième gardien. Donc voilà, j'ai fait une saison en tant que troisième gardien, DHR, donc j'avais 17 ans, donc c'était que du bonus. L'année d'après, j'ai réintégré donc les moins de 17, parce qu'à cette époque-là, c'était 3 ans. Et voilà, j'ai fini ma troisième année, j'ai eu besoin de souffler, de passer à autre chose, parce que c'était beaucoup d'investissement. Avec la CFA2, c'était 4 entraînements en semaine, le match le week-end. Donc voilà, j'avais envie de passer à autre chose et donc je suis revenu dans le village presque natal, quoi. Voilà, en Aigues-Vives, voilà, il y avait cette petite fusion, donc voilà, je suis revenu aux sources.
Et justement, suite à cette saison, le club fusionne avec Villeneuve-Eyrieux.
C'est ça.
Vous restez un an au Haut-Minervois FC.
Oui, voilà, donc une année de transition. Voilà, la première année avec l'Or Aigues-Vives, quand même, on finit vice-champion de PH. J'avais fait quelques matchs joueurs, quand même. Je finis, quand même, faut le noter, deuxième meilleur buteur du club avec 11 buts. Donc voilà, petit clin d'œil. Quoi. C'était vraiment, j'avais envie de passer à autre chose.
De 2006 à 2007, vous jouez pour le RC Bindens Rustic.
Tout à fait.
Encore une seule saison.
Une seule saison.
En tant que joueur.
En tant que joueur. Et il y a quelqu'un d'autre qui a joué à cette équipe autour de la table, je crois. Hein.
Il me
régalait.
Xavier, vous n'avez pas joué à Bindens Rustic.
Bon, ça doit être, même pas où c'est.
Ça doit être moi alors. Bindens Rustic, d'ailleurs, le club, j'ai croisé le frère du président il y a quelques jours et le club a coulé. Enfin,
il n'existe plus, malheureusement. Ouais.
Depuis cette année. Ouais.
Mais bon, de très belles passes de numéro 6.
Ouais, vous pouvez nous le dire, Jean-Marc, comment il était ce joueur
C'était un joueur box-to-box, hein, comme on appelle aujourd'hui. Hein, il transperçait les lignes.
C'était l'une de mes meilleures saisons.
Très bon souvenir.
On n'est pas là pour parler de moi.
Et alors justement, Romain, parle-nous un petit peu de Jean-Marc. Quel souvenir tu gardes ?
Alors moi, je garde un souvenir d'une. Alors, c'est un mot que je peux pas utiliser à la radio, mais dès qu'il avait le ballon dans la surface, il y avait toujours faute sur lui. Et ce qui est énorme, c'est que il y a eu une dizaine de, même, 11. Je pense, 11 pénalties dans la saison. Sur les 11 pénalties, il y en a 11 sur lui, véridique. Hein. Ah, et
Et les 11 que je mets.
Et les 11 qui tirent exactement de la même façon. Ouais. Si je me rappelle bien, croisé, petit filet.
C'est ça.
Et ce qui était énorme, c'est qu'on savait qu'il allait tout le temps avoir un penalty et on ne pouvait pas le toucher. Mais tous les penalties étaient justifiés. Mmh. Mais un très très bon joueur, un très très bon attaquant.
Parce que justement, cette saison, vous passez attaquant. Avant, étiez gardien.
Ouais, tout à fait.
Alors pourquoi vous êtes passé à ce poste ?
Ben, j'avais envie, mais je pense que voilà, on est en étant gardien, j'ai fait les extrémités en fait. Quoi, voilà.
Oui.
Niveau gardien, j'étais un peu derrière tout le monde et là j'étais devant tout le monde. Et c'est des postes quand même à part où on peut tenir l'issue du match par les performances qu'on peut faire. Donc voilà, donc c'était.
Positive ou négative
hein, positive ou négative, tout à fait. Donc puis je me dis que devant, moi au milieu, ça l'aurait pas fait. Quoi.
Et c'est pas difficile justement ce si gros changement ? S'adapter.
Après Léo, le niveau n'était pas le même aussi.
Ouais, non,
oui, mais s'adapter à un nouveau poste, c'est quand même deux postes qu'on n'a rien à voir. Et c'est pas compliqué justement ?
Non, moi j'ai pas trouvé. Mais je pense que beaucoup de gardiens jouent neuf, quoi. Mm-hmm. Donc,
parce qu'ils comprennent, ils passent leur carrière à essayer de deviner ce que va faire le neuf adverse. Donc,
c'est ça.
C'est réciproque.
On était en deuxième division de district, donc c'était pas non plus. Exceptionnel, mais non, ça va, ça allait.
Quentin ?
Oui, juste, c'est une question qui me venait, Jean-Marc. Est-ce que le fait d'être passé attaquant, le moment où vous êtes revenu gardien, ça vous a changé la vision du poste de gardien? Parce que forcément, quand vous avez été attaquant, on va dire, vous êtes passé de l'autre côté, tout simplement, du terrain, on peut le dire. Est-ce que ça a changé votre vision quand vous êtes revenu au poste de gardien? Est-ce que vous avez appréhendé des matchs différemment? Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'appréhendé des face-à-face face à des attaquants différemment? Puisque vous vous êtes dit, moi, j'aurais fait ça, donc peut-être que...
À des moments, peut-être, sur les pénaux. Sur les pénalties, c'est vrai que voilà, l'habitude de les taper, je me disais bon. Mais après, sur certaines phases de jeu, peut-être. Mais bon, après, non. C'était surtout, il fallait que je fasse le vide dans ma tête de plus jouer gardien.
Et l'inverse est vrai, face à face, justement, face au gardien. Quand on est attaquant, est-ce que vous réfléchissiez à ce qu'il allait faire ou...
Oui, par moment, fraction de seconde. Ouais. Bon, après, c'est un jeu. C'est pas un manque de respect, loin de là. Mais c'est plus voilà, le jeu de. Voilà, après, en deuxième division, il n'y a pas non plus des gardiens. malheureusement exceptionnels, hein, mais bon, voilà. Il y en a, mais
pas partout.
Voilà, c'est ça.
Vous sentez que ça va vous apporter un plus d'être passé attaquant quand vous êtes revenu gardien? Vous sentez que vous aviez un avantage, on va dire, ou
ouais, dans le jeu au pied, peut-être.
Ouais.
Ouais, ça m'a aidé sur les contrôles aussi. Bon, même si on jouait pas sur des galettes tous les week-ends, c'était vraiment. Romain pourra en parler. Donc ça m'a apporté dans le jeu au pied. Ouais.
Dans le jeu au pied, il faut savoir que Jean-Marc est capable de faire des 6 mètres jusqu'à la surface adverse, que ce soit le premier ou le dernier 6 mètres du match. Il a une puissance au pied.
Oui, aujourd'hui, c'est plutôt
un peu moins.
Il y a le vent d'OTAN. Un peu moins quand même.
Léo.
Vous arrivez par la suite au Limoupieuse FC, vous y restez 2 saisons, donc là, on est dans la moyenne.
Oui.
Vous étiez à l'aise dans ce club, du coup?
Oui,
ça gardien allait. Là du coup.
Là gardien. Ouais, là, je re-signe gardien. Oui, ça.
Ils avaient un très bon neuf, personne de Brahim Taibi, je crois.
C'est ça. Il y a Michael Schisting aussi. Beaucoup d'anciens de Carcassonne, de la DH de Carcassonne, voilà.
C'était un club particulier repris par un mécène, c'est ça. Enfin, mécène. Il y avait un peu d'investissement.
Ouais, il y avait quand même un peu. Voilà, la volonté de monter en DHR. On fait 2 saisons où on finit dans les 4-5 premiers. Donc avec pendant un an et demi, Christophe Chabot, qui était quand même une figure emblématique de l'épopée de Carcassonne en CFA2.
Notamment les matchs face à Nantes.
Ouais, tout à fait.
Il marque d'ailleurs, je crois.
Très, très, très bon tireur de coup franc. Une vraie patate. Quoi. Vraiment belle frappe. Donc, de bonnes saisons. Ouais, ça va.
En 2009. Malgré tout, vous le quittez pour jouer aux côtés du Kasiak FC. Vous y restez 3 saisons, donc c'est pour l'instant l'un des clubs où vous êtes resté le plus longtemps, en fait.
C'est ça, ouais.
Quel souvenir vous gardez de ces 3 saisons et de ce club?
Mon premier titre en tant que senior, quoi. Voilà, champion de PH, monté en DHR. Voilà, une année où il se sauve à la dernière journée, et la saison d'après, on est champion. Donc ça, c'est quand même assez paradoxal.
Parce que des fois, ça forge. Justement.
Ouais, bon, il y a eu l'apport de 5 joueurs l'année qui a suivi. Donc on est champion avec un groupe, on était 16-17, quoi, en comptant 2 gardiens. Donc de la chance, pas de blessés, de la réussite, des joueurs de qualité, des anciens de Carcassonne. Hein. Et le top, quoi. C'est vraiment un club familial, mon meilleur souvenir et mes meilleures saisons. Ouais.
À ce point-là?
Ouais, je pense que si le travail m'avait fait venir dans le Tarn, je serais resté là-bas.
Et selon vous, vous jouez quel rôle au sein de cette équipe à cette époque? Quel rôle vous aviez?
Mais déjà, j'arrive blessé, quoi. Je m'étais fait opérer du ménisque, donc j'arrive un peu au mois d'août. Au mois d'août, j'arrive un peu. Il y avait déjà un gardien en place, un jeune. Bon, j'arrive sans pression, c'était 2 coachs que je connaissais qui m'avaient eu à Carca, donc je me suis remis de ma blessure et puis j'ai enchaîné les matchs, il m'a fait confiance, c'est ma meilleure saison que je fais, quoi.
Alors j'ai contacté un de vos anciens coéquipiers et voici sa réponse.
Vraiment quelqu'un de très très bien, parce que à Kasiak c'était le joueur, on va dire, le plus âgé. En fait, il n'était pas beaucoup plus vieux que nous, mais il avait déjà la maturité, il savait nous rassurer. C'était vraiment un plus pour l'équipe.
Est-ce que vous l'avez reconnu?
Non, pas trop. Non.
Vous ne savez pas qui ça peut être?
Ouais, non. Mais après, il y en avait pas mal.
C'était Nicolas Pellegrin.
Ah oui.
À qui vous avez joué au Minerva aussi avant, je crois.
Ouais, ouais, ouais. Et ouais, on s'est suivi.
Oui, vous êtes quitté pour vous retrouver, en fait.
Ouais, pour mieux se retrouver. Ouais, ouais, ouais. Non, ouais, très, très bon joueur. Ouais. Très,
il n'a jamais voulu signer à Banet. Son agent ne voulait pas qu'il
signe. Oui, son agent ne voulait pas. Après, c'était un très bon joueur en dehors et sur le terrain, quoi. En dehors, c'était. Il était fantastique.
Et là, il joue en deuxième division de district dans le Gard.
Ouais. Mmh. Ouais, ouais. C'est.
Et vous quittez donc cette équipe en 2012 pour rejoindre Dourgne pendant deux saisons.
C'est ça, ouais, tout à fait.
Comment ça se passe à cette période ?
Ben moi, c'est surtout que voilà, j'étais venu pour le travail dans le Tarn, donc c'était un peu de la transition. Et je venais m'entraîner avec Revel et avec Dourgne aussi. Et quand ils ont été champions d'excellence, ils sont montés en PL, voilà, avec le président, M. Pradel, j'avais dit que s'ils cherchaient un gardien, moi, je signerais parce que ça avait l'air vraiment sympa. Mmh. Et donc voilà, j'ai tenu parole.
Vous auriez pu signer à Revel ?
Oui.
Et pourquoi ça s'est pas fait ? Parce qu'il y avait une première avec.
Il y avait un monument quoi, dans les cages. Un des meilleurs gardiens de la région, si ce n'est pas.
Qui était ?
Le meilleur qu'il y a eu, Monsieur Garcia.
Le frère de.
Le frère de Cyril, ouais. Ouais,
ouais. Décidément. Non,
bon, voilà. Ouais, Cyril Garcia, on va l'inviter tous les lundis. Il va venir faire
l'émission. C'est le fil rouge des émissions, quoi. Ouais, ouais, non, mais d'ailleurs, je le salue s'ils écoutent les deux.
Mais quand il était venu. Ouais, il était venu avec Cédric.
C'est deux super mecs et deux super très bons gardiens, quoi.
Xavier, vous avez
je
connu.
Confirme.
Ouais, vous avez
non,
connu,
je confirme. Oui, oui. Non, mais que... les deux, bon, ils ont ça dans le sang. Hein. Donc, voilà, de père en fils, hein. Ils ont été gardiens et puis ils continuent. Et puis, pour le bien un peu de la région, et puis surtout, c'est quand même assez rare de rester autant de temps dans un club comme l'a fait Cyril, quoi. Bon, à Revel, ça fait. Et je crois que.
Cédric.
Ouais, Cédric. Cédric. Donc, lui, ça fait plus de 10 ans. Hein. Je crois que. Voilà quoi.
Léo.
Donc, deux saisons, on est dans la moyenne. En 2014, on est reparti pour la AS Perrin-Rigotou.
C'est ça, ouais, tout à fait.
Vous pouvez nous parler un peu de ce club ?
Ouais, ben, un club super, familial, qui était monté donc, de départemental 2 en départemental 1. Je me mets à la page. Hein.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Et voilà, vraiment un club qui ressemble un peu à Cazillac au niveau de la mentalité. Donc voilà, avec des super gars. Donc c'était super. Ouais, ouais, c'est deux belles saisons. Très bonne saison.
Donc, si on calcule un petit peu, on voit qu'en un peu plus de 10 ans, vous avez joué pour 8 clubs différents.
Vous avez gravelé.
C'est pas difficile de s'adapter à chaque fois et de trouver sa place dans une équipe quand on change régulièrement ?
Non, non, parce que la première saison, finalement, on arrive, on est. Voilà, on fait un peu la surprise, quoi. Le plus dur, c'est la deuxième saison. Il faut confirmer la deuxième saison, c'est toujours plus compliqué. Après, c'est vrai que ben, voilà, c'est un fait.
Le plus dur, c'est l'intégration, le premier apéro, si on le tient ou si on ne le tient pas. Après le reste, normalement,
à Perrin, ça passe. Ouais, premier apéro, c'était 3h du matin à la pétanque, donc voilà. C'était pas mal.
C'est la pétanque qui rentre en compte, en plus.
Et depuis 2016, vous jouez pour Castres. On a vu que vous restiez donc rarement plus de deux saisons dans un club. Donc si on suit les statistiques, ça voudrait dire que c'est votre dernière saison dans le club.
Eh ben, je sais pas, on verra à la fin de la saison.
On verra à la fin.
Chaque année, il y a un bilan de fait avec le coach, avec les joueurs, avec le président. Et, on verra ce qui est le mieux pour l'équipe et ce qui est le mieux pour moi aussi. Quoi. Donc voilà, à la fin de la saison, on verra.
Et donc, on sait que vous avez changé régulièrement de club. Vous avez aussi changé de poste. Hein. Décidément, vous êtes instable, Jean-Marc.
C'est ça.
Comment vous faites à chaque fois pour vous adapter ?
Je suis un caméléon, quoi. Non, bon, je sais pas. Non, c'est... C'est...
Jamais vu un caméléon avec des oreilles pareilles. Mais...
non, mais ça, je sais pas. C'est moi, quoi. J'aime bien que ça bouge. Après, je suis quelqu'un qui vit les choses à 200%, donc ça me fait pas peur. Voilà. Après.
Et comment vous définiriez votre style de jeu aussi bien en tant que gardien qu'en tant qu'attaquant ?
J'essaie d'être efficace. Bon, c'est pas toujours gagné, surtout avec l'âge. Mais mais il a évolué avec le temps. Voilà, c'est vrai qu'avant j'étais quand même un peu, je dirais pas bourré, mais voilà, j'aime bien quand ça percute pas mal. Mais là aujourd'hui, on va dire que je privilégie des arrêts avec de la finesse qu'autre chose, quoi. Voilà.
Et justement, on a reçu beaucoup de gardiens Oxyfoot, on a Olivier Lagarde, l'entraîneur des gardiens d'Amiens, qui a footpi et qui est aussi gardien. C'est vraiment, il nous en parlerait facilement, c'est vraiment un métier à part, un poste à part dans le football qui est ultra important. Mais est-ce que vous vous sentez quelque part pas différent, enfin, si, peut-être différent.
Oui, différent, oui.
Comment ça se passe dans la préparation des matchs et tout ça ? Est-ce qu'on est plus. On est moins dans l'esprit collectif ? Déjà, on s'entraîne à part toute la semaine.
On est des solitaires dans du collectif. Quoi. Voilà, on peut tenir la clé d'un match à tout moment. Si on fait une bourde, bien, tout le monde va le voir et on peut faire basculer le match. Et si on fait une parade à la dernière seconde qui fait gagner et qui fait basculer le match, bien, tout le monde va vous applaudir et sinon, tout le monde va vous enterrer. Donc c'est là où il faut être fort dans sa tête, surtout, et être un leader, et toujours se remettre en question. Mais ça, je pense que ça va aussi. Les personnes qui sont gardiennes ne sont pas là par hasard. Voilà, la remise en question permanente, l'esprit d'équipe, malgré tout, en étant solitaire. Moi, je sais que voilà, je suis quelqu'un quand même qui parle beaucoup à mes joueurs, même des fois trop, mais bon. Mais voilà, pour les motiver, pour les encourager, quand ils font voilà, ils ratent une passe ou quoi, voilà, il faut, ouais, on est un leader, on est, ouais, faut être costaud, quoi.
En préparant cette émission, j'ai eu un échange avec Yves Gustin, qui est le gardien de Tournefeuille, et qui me disait qu'il fallait, enfin, il faut être un peu, enfin, si on est un peu du jote, on ne choisit pas d'être gardien quand on est petit. C'est vraiment enfin, l'entraînement, on passe l'entraînement en prendre plein la gueule. Il y a pas d'autre mot. Il faut vraiment avoir un pète au casque. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, que ce soit clair, mais il faut aimer, voilà, faut aimer ça.
Ouais,
vous disiez tout à l'heure que vous aimiez quand vous être bourrin quand vous étiez plus jeune, mais c'est ça, il faut.
Ouais. Bah, j'ai passé plein d'entraînements à prendre des reprises de volée aux 6 mètres, aux 9 mètres.
Sur des terrains
boueux où c'est que je vais à la douche tout habillé, ça fait.
Il faut aimer ça.
Ouais, il faut aimer ça.
Vous aimez ça, voilà.
Faut aimer prendre des coups.
Yves adore ça aussi.
Moi j'aime ça. Ouais. C'est repousser ses limites quelque part. Donc c'est intéressant. Ouais.
Et on l'a vu hier sur Canal Plus avec le sport reporter
en cage.
Il y a une confrérie des gardiens. Vous respectez tous. D'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure, comment vous parliez de Cédric Garcia et de Cyril. Et souvent, dans les clubs, il y a une rivalité entre gardiens, mais on essaye aussi de se pousser entre gardiens. Qu'un attaquant, par exemple, eh ben, si l'autre attaquant marque pendant que nous, on ne joue pas, on est un peu... on est content pour lui, mais bon, on préférait quand même que ce soit ça. Ouais. Vous, les gardiens, pas tous, mais c'est quand même plus souvent différent. On est souvent derrière le numéro 1 ou quand on est le numéro 2. Enfin, ou quand on est le numéro 1, je fais une Jordan, là. Je m'embrouille avec les numéro 1, numéro 2. Mais vous comprenez ce que je veux dire, vous le ressentez, ça ?
Oui. Ben, surtout que moi, en arrivant à Castres, c'était vraiment la volonté de venir apporter un plus par l'âge, par l'expérience, en formant un gardien plus jeune. Quoi. Voilà, en l'occurrence, Anto Buisson qui est revélois. Quoi. Donc, vraiment, et, pour essayer de le tirer vers le haut et que l'avenir, voilà, à 18 ans, c'est lui, c'est pas moi. Quoi. Voilà, moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Moi, bon, j'ai quelques belles années encore devant moi, mais bon, à la fin des entraînements, ça tire un peu, quoi. Donc,
Quentin.
Jean-Marc, comment ça se passait, les collaborations, on va dire, avec les capitaines ? Parce qu'on dit que pour être gardien, il faut forcément être un leader naturel, psychologique, on va dire. Alors, dans le vestiaire, comment est-ce que vous gériez ça, notamment au moment de prendre la parole ? Comment ça se passait ?
Ouais, après, pour le coup, moi, j'ai jamais été forcément capitaine, sauf à part à Perrin. Naturellement, c'est venu. Après... Voilà, un gardien, hier Olmeta, il le disait dans le reportage, c'est quelqu'un à part, quoi. Donc quand il parle.
C'est ce qui revient.
Quand il parle, voilà, en général, on l'écoute, quoi. Donc moi, ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours été un leader de vestiaire. Voilà, il y a les vrais leaders, les capitaines, les leaders techniques, les leaders de vestiaire. Les gueulards, quoi, voilà, ceux qui impulsent la dynamique, qui font monter un peu la bonne pression, pas la mauvaise. Donc moi, j'ai toujours eu ce rôle-là, et encore plus avec les années, avec le poids des années, quoi.
On n'a pas besoin d'avoir le brassard, finalement, Jean-Marc, pour être...
Non.
Mettre un gardien capitaine, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais trop apprécié. Parce que
c'est dur. Parce que quand il te faut faire 80 mètres pour aller parler à l'arbitre, les fractionner...
Et puis, on n'a pas besoin... Le gardien a le droit de parler sans le brassard. C'est dommage de se priver de ça. Xavier, ce poste de gardien, c'est particulier.
Oui, c'est particulier, mais surtout, en fait, c'est, on le disait, c'est plus comment on devient gardien d'entrée dès qu'on est petit, c'est ça. Et c'est plus un état d'esprit et même une attitude, plus que vraiment le poste, parce que, bon, ok, on se met dans les buts. Pourquoi on se met dans les buts ? Est-ce que parce qu'on est le centre du monde aussi un peu ? Parce que lors des entraînements, eh bien, au lieu d'être un parmi tant d'autres... sur les 15, eh bien, là, ben, on est un peu plus en valeur. Et souvent, les gardiens, ils se déterminent quand ils sont petits. Hein. Ils ne deviennent pas gardiens. Quoi. Autant un attaquant peut devenir défenseur, autant un gardien, il est là depuis le début. Il n'y a pas un gardien qui est devenu gardien au haut niveau. Il s'est foutu dans les buts à 17 ans. Quoi. C'est pas possible. Parce qu'il faut avoir une technique, hein, mais aussi, il faut avoir une attitude complètement différente des autres joueurs parce qu'on a la responsabilité de tout. Et si on n'a pas ce mental-là, bah, vous avez vu le reportage, je ne l'ai pas vu, mais j'imagine que tous ces gardiens, peut-être ont été interviewés lors de ce reportage en cage, ils ont un caractère vraiment fort. Quoi. Voilà, on le met à, bon, forcément. Oui. C'est quand même un gars qui est monté dans les tribunes pour taper un gosse. Donc, si vous voulez, bon, il y a un niveau... Alors, je ne dis pas niveau intellectuel hein, au niveau des gardiens. Mais si vous voulez, il y a un niveau de, comment dire, de force de caractère et même d'être un peu tout fou qui fait que bah, c'est ça la différence du poste hein, par rapport à tous les autres.
Voilà. Ah, justement, par rapport à ce que disait Xavier, vous rappelez-vous vos premiers pas gardien ? Pourquoi gardien ? C'est vrai que c'est intéressant ça aussi.
Ouais, c'était à Capendu, à côté de mon village là. Ouais, parce que j'ai, voilà, ça m'intéressait d'aller là.
De suite, vous avez été gardien ?
Ouais, de suite. Ouais, j'ai commencé à 7 ans. J'étais dans les cages. Je sais que j'avais mon père, voilà, taper le ballon. J'allais dans les grandes cages. Et puis quand je voulais jouer avec les plus grands, eh ben, si je voulais jouer avec eux, eh ben, tu vas où ? Ben, tu vas aux cages. Donc, je me prenais autant dans les cages. Finalement, c'est toujours resté. Et puis bon, j'ai jamais été exceptionnel, mais bon, ça allait quoi. Finalement, j'avais pas peur du ballon. Donc, du moment où t'as pas peur du ballon.
De suite, vous avez vu que vous aviez. Enfin, vous pourriez être un bon gardien
Ouais, après, on prend conscience avec les années. Voilà, c'est vrai que j'ai joué en 13 ans, honneur, 15 ans, honneur, enfin, des choses comme ça, Carcassonne, honneur, excellence tout le temps. Donc, on se dit, bon, après, moi, je voulais en faire mon métier. Bon, j'ai pas eu la chance de pouvoir entrer en centre de formation, mais. C'est pour ça que c'est important, voilà, s'il y a des jeunes qui écoutent, c'est important que, de lier les études au sport. Quoi, voilà. Moi, pour ma part, ça a pêché sur ça. Quoi.
Pas, donc, pas une flèche.
Léo. Ouais, non.
Et justement, par rapport à ça, j'ai une petite question. Est-ce que vous l'avez toujours, votre classeur ?
Mon classeur.
Votre classeur, est-ce que vous l'avez toujours ?
Lequel ?
C'est Nicolas Pellegrin qui voulait savoir.
Il doit peut-être encore l'avoir, son petit classeur ou son petit cahier, là où il garde les petites lettres qu'il avait envoyées au club pro pour demander à faire des essais ou des entraînements. Je sais que quand il était jeune, il voulait vraiment devenir pro, mais à partir du moment où il a compris que ça ne serait plus, là, il a joué avec les copains et pour s'amuser.
Ouais, ben oui, je l'ai toujours. Voilà, je le garde pour ma fille. Voilà.
Parce que vous avez fait des tests au TFC, je crois.
Ah ouais, mais j'avais été pris à 7. Et j'ai pas eu mon brevet. Donc,
7 qui était en Ligue 2 à l'époque. Hein,
ils étaient en National et ils étaient en 15 ans nationaux aussi. Mmh. Donc très belle poule, quoi. Monaco, Marseille, enfin, tout le gratin, quoi. Et voilà, donc j'avais fait les tournois de fin de saison avec eux. Et la condition, c'était d'avoir le brevet. Et bon, je me suis réveillé trop tard. Et voilà. Je ne l'ai pas eu. Donc
ça. Et le TFC aussi ?
Castelmouroux. Ouais. J'ai échoué ouais, juste avant Castelmouroux. C'est Benvenu qui est sorti à ma place, qui a fait quelques matchs au TFC et qui, pour son premier match à Monaco, est rentré avec le TFC qui a arrêté un péno. Voilà. Et aujourd'hui, je sais pas ce qu'il fait. Je le suis un peu de loin.
Il ne joue pas à Castres, en tout cas. Ça, c'est sûr.
Ah non. Je crois qu'il joue plus. Ouais. Ouais.
Léo ?
Jean-Marc, on va faire un point sur la saison. Comment vous l'analysez, cette saison, aussi bien personnellement qu'avec votre équipe ?
Alors, donc je vais commencer collectivement. C'est une saison où on a été second jusqu'à il y a à peu près un mois de ça. Et là, on est sur 4 matchs sans victoire. Hein. Donc, je pense, enfin, c'est rapé pour la montée en DHR. Hein. voilà, régional 2. C'est dommage, l'équipe est jeune, mais bon, à un moment donné, il faut passer les paliers. Et là, voilà. En plus, il y avait deux montées cette année, je crois, et le meilleur troisième des quatre poules. C'était l'année qu'il fallait. Voilà, on ne l'a pas fait. On a été éjecté à 4 matchs de la fin, 5 matchs de la fin du podium. Mais voilà, c'est dommage.
Pardon, Léo, autant pour moi. Jean-Marc, justement, sur cette série de 4 défaites, 3 de ces 4 défaites sont contre des équipes du top 5. Ouais. Et vous êtes actuellement 4e. Alors, est-ce que vous jugez que vous êtes à votre place?
Sûrement, on est 4e avec un match de plus que le 5e.
Qui peut vous passer
devant. Aujourd'hui, vu les matchs qu'on fait, on perd contre le 9e. Donc, à la maison, ce week-end, contre Saint-Juéry.
Quentin, d'ailleurs, ne l'a pas rappelé tout à l'heure. Hein, il a été sympa.
Ouais. Voilà. Non, ouais.
Je me suis arrêté en R2.
Non, mais c'est délicat. Non, je sais pas aujourd'hui. Il faut vite réagir parce qu'il reste 4 matchs. Ce week-end, on va à Balma, qui est pas loin de nous. On doit aller à Sébazac aussi, qui est juste derrière. Si on fait la prestation de ce week-end, les 4 matchs, ça va être très long. Quoi. Donc,
parce que jusqu'à il y a un mois, justement, vous étiez deuxième et vous n'aviez qu'une seule défaite. Matchs,
ouais,
c'est vrai que là, ça plombe un petit peu.
C'est dommage. Ouais. Bon,
Léo,
c'est quoi l'objectif maintenant, du coup?
C'est d'essayer de prendre du plaisir sur les 4 derniers matchs, quoi, de faire du jeu, parce qu'à l'entraînement, on y arrive. Et en match, on n'y arrive pas. Quoi. Donc, c'est de jouer pour gagner. Pas de jouer pour avec la peur de perdre, quoi. Donc se faire plaisir, parce que là franchement on se fait chier, quoi.
Et personnellement, comment vous l'analysez, votre saison?
Compliqué, hein. Moi j'ai eu une saison j'étais papa en juin, donc nouvelle vie, quoi, à côté. J'ai eu une pubalgie sur la prépa, donc pendant un mois et demi je suis revenu en torse du coude. Donc et après
toujours les blessures.
Toujours les blessures, j'ai cru que c'était parti, mais non, ça revient. Et après un jeune qui pousse, qui prend la place, qui fait ses matchs, et après faut sortir les rames pour reprendre sa place, quoi. Donc
il faut savoir que Jean-Marc Savonnet s'étire une demi-heure après chaque entraînement, après chaque match, et pourtant c'est le joueur avec qui j'ai joué qui a été le plus blessé, je pense.
Ouais, mais cette année, c'est pas moi qui ai le plus souvent à vélostéo, quand même. Bon, il y en a qui me battent.
Léo.
Jean-Marc, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'interview dernière fois. Il manque le jingle.
Ouais. C'est pas grave. C'est le jingle de Quentin, mais c'est pas grave.
On continue. Jean-Marc, je vais vous poser des questions. Vous allez me répondre avec la dernière chose que vous avez faite. Si je vous dis dernière paire de crampons achetés.
C'est les Adidas pour Noël. Voilà. Mais bon, pas top.
Pas top. Vous les recommandez pas, donc?
Non.
Moins bien que les F50 de l'époque.
Non, sur vente privée, là, c'était pas très cher, mais finalement, ça convient pas à mon pied. J'en vois plus de souche en touche qu'autre chose.
Dernier but marqué. Ça remonte.
Hein. Ouais, ça remonte à Badens, quoi.
Je devais y être.
Un péno, je pense.
Dernière joie sur le terrain.
Dernière joie sur le terrain, match contre Colomiers. On a fait un gros match, on gagne 1-0, c'est parti, mais d'entrée à 10 000 à l'heure, et franchement c'est plus une joie collective qu'individuelle.
Et dernière déception sur un terrain,
ce week-end.
Oui.
Ce week-end, dernier carton.
Oula, ça date de Perrin, ça. Je pense que c'est un rouge direct.
Un rouge direct,
sorti boule de feu. Ouais.
Dernier match regardé à la télé.
Marseille-Montpellier.
Ouh là là. On parle de football. Vous étiez... Non, un vrai match de football.
Plutôt quand...
Saint-Étienne-Paris, vendredi.
Ah là, oui.
Non, plutôt quand Montpellier-Rhin ou Marseillais, du coup, hier soir?
Montpellier-Rhin.
Montpellier-Rhin?
Ouais.
Quentin?
Dommage.
Ouais, non.
Pas Marseillais, en tout cas.
Non.
Dernier match auquel vous aviez... ou auquel vous ayez assisté.
Dans les tribunes, on va dire c'était au TFC, c'était un TFC Bordeaux il y a une paire d'années.
Dernier maillot acheté.
Maillot de Saint-Étienne. Il y a une dizaine d'années. Oui.
Ouais. Dernier pari réalisé.
Il y a quelques temps. c'était je crois que c'était avec mon beau-fils. Ouais, c'était pendant une partie de FIFA. Il avait pris une rouste, comme d'habitude.
Dernier film que vous ayez regardé?
Ouais, c'était quand ça? Je pense que c'était avec ma compagne il n'y a pas longtemps. Mais bon, j'ai beaucoup de mal à les regarder jusqu'au bout parce que quand on est papa, à 21h30, 22h, on commence à avoir les yeux qui sont lourds, quoi. Mais ouais, c'était ça. Sûrement ce week-end. Ouais.
Musique plutôt alors, quel dernier album vous avez écouté?
Jean-Louis Aubert.
Jean-Louis Aubert.
Ouais.
Une dernière question. Jean-Marc Saonet par Jean-Marc Saonet, ça donne quoi? Comment vous vous définiriez?
Ouais, compliqué.
C'est le mot? Compliqué?
Ouais, compliqué. Ouais. Ouais.
Merci Jean-Marc, on passe tout de suite à l'interview Tac au Tac de Quentin.
Alors Jean-Marc, si je vous dis Barça ou Real?
Barça.
City ou United?
City.
Bayern ou Dortmund?
Dortmund, République.
Juventus ou Naples?
La Juve, pour très bon public, ce qu'ils ont fait, Ronaldo, je pense que ça devrait se faire plus souvent.
OM ou PSG?
Bah, pour mon pote Romain à Paris.
ASSE ou Lyon?
Ah, Saint-Etienne.
Gianluigi Buffon ou Iker Casillas?
Buffon.
Manuel Neuer ou David De Gea?
Neuer, pour le jeu au pied.
Hugo Lloris ou Steve Mandanda?
Lloris.
Jérémy Jeannot ou Stéphane Ruffier?
Ah.
Oh, Jean-Marc.
Ouais, allez, Jeannot.
Eh oui.
Rugby ou tennis?
J'aime bien les deux. Je vais dire rugby pour les valeurs.
Hand ou basket?
Hand.
Thé ou café?
Thé.
Whisky ou vodka?
Whisky.
Pain au chocolat ou chocolatine?
Oh, chocolatine.
McDo ou pizza?
Pizza, surtout à ma compagne.
Blonde ou brune?
Elle est comment la compagne?
Je vais dire...
J'ai pas précisé, ça peut être la bière. Hein.
Oui, tout à fait. Donc si c'est la bière, c'est blonde.
Jean-Marc Saonet, coach de Castres un jour, possible ou non?
Pourquoi pas? Je sais pas. Ça dépend. Ça peut être coach de gardien.
Ça vous plairait ça, coach de gardien?
Ouais. Je pense que j'irai vers ça plus tard.
La vidéo dans le foot, oui ou non?
Oui, mais il y a du boulot.
La France, elle peut la gagner cette Coupe du Monde?
J'espère.
Très bien, merci.
Merci à vous.
Merci Jean-Marc, merci Léo et à Quentin. Et tout de suite, on écoute Offenbach et le titre Catchy.
She gave me catching all night long.
On est de retour sur Esprit Occitanie. On vient d'Occitanie. On vient d'écouter Offenbach et le titre Catchy, une musique choisie par notre invité Jean-Marc Sonnet. Pourquoi cette chanson d'ailleurs, Jean-Marc ?
Ben, tout simplement parce que voilà, ma fille de 10 mois voilà, danse sur cette chanson. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil.
Romain aussi danse dessus,
pour elle.
On l'a vu. Ouais, moins.
Non, moins.
Bon, je suis pas trop danseur.
Dans le studio, là, on te voyait tout à l'heure.
Ouais, c'est ça, Léo. Il est malin, Léo. Il essaie de gagner du temps sur le quiz, mais ça ne marche pas. Il est 20h21 et c'est l'heure du quiz, messieurs. Je vous rappelle les règles, messieurs. 10 questions, 1 point par bonne réponse. Et ce soir, nous allons jouer en équipe, comme d'habitude. Xavier va jouer avec notre invité Jean-Marc. Et Quentin fera équipe avec Léo. Pour répondre, il suffit de me donner votre prénom pour prendre la main. D'accord, Jean-Marc ?
D'accord.
Vous avez la réponse. Jean-Marc, Xavier, Léo, Quentin. Messieurs, êtes-vous prêts ?
Prêt.
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 Prêt. Prêt à gagner.
Xavier a laissé son micro pendant l'émission. Là,
mais oui, mais non, là, je l'ai repris là, direct. Bon. Parce que je sais qu'il faut pas que je le tombe. Il y a le loustique là qui démarre vite.
Bon, on va voir.
Il a éteint le téléphone.
Il est là.
Il n'y aura pas.
Je suis tellement pas discret, Xavier, que si je faisais quoi que ce soit, vous le remarqueriez en premier.
C'est vrai, pas faux.
Oui.
Sur allez, messieurs, c'est parti. Cette semaine, le Bayern s'est imposé 2-1 face au Séville FC au stade Sanchez-Pizjuan. Ce match a été marqué par un record, mais lequel ?
Léo, record d'affluence ?
Non, absolument pas.
Xavier, le record de victoire du Bayern à l'extérieur ?
Non, c'est pas tout à fait ça.
Jean-Marc ?
Oui.
C'est, je sais pas, un buteur ?
Non.
En fait, c'est le record, le nombre de victoires consécutives du Bayern, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ?
Il y a un truc comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. Là, c'est une passe décisive de Xavier Bedos. Là. Il est rentré dans la surface, petite passe en retrait.
Ouais, tout qui dépend va qui va regarder. Conclure. Là, maintenant.
Qui va conclure ? Ça fait 12, exactement. Hein ? Ça fait 12 victoires.
Bah, c'est. Oui, c'est le record.
Et messieurs, si c'est pas pour le Bayern,
c'est pour Séville.
Et non, parce qu'ils ont perdu.
Ah, oui, le record de défaite ?
Non, c'est le record de victoire. Ça fait 12. 12 victoires.
12 victoires.
Mais Quentin, peut-être le record de la série sur laquelle ils sont actuellement. 12 victoires d'affilée.
Et oui, mais c'est pas le Bayern qui a 12 victoires.
Ah, c'est Séville qui a 12
victoires. Non, c'est pas Séville non mais plus.
Ça concerne le match Séville-Bayern.
Bien sûr,
Ah, mais c'est pas par rapport à Joe Pinkes. Ah, bah c'est 12 victoires d'affilée en Ligue des Champions, Quentin.
Voilà. Celle-là, il
faut. Non, mais attends, là, il y a.
Xavier, je vais vous expliquer.
Oui.
En début de saison, le Bayern a perdu, notamment au Parc des Princes 3-0. Sauf que ce n'était pas Jupp Heynckes qui était entraîneur du Bayern. Et Jupp Heynckes restait sur les matchs quand il avait gagné, on en a parlé tout à l'heure, de la Ligue des Champions avec le Bayern.
D'accord.
Donc la belle victoire du technicien de 72 ans et de ses hommes à Séville mardi soir lors du quart de finale aller de Ligue des Champions a permis donc à l'Allemand d'écrire sa propre histoire. Il a ainsi signé sa 12e victoire consécutive en Ligue des Champions.
D'accord.
Oui. C'est bon, Xavier ?
Oui,
on
bon.
Accepte.
Je fais 90% du boulot. Belle l'autre, il la met au fond.
C'est ça.
Non, mais
c'est
bien ça, joué.
Le contre-fou, voilà. Foudroyant, le gardien
avancé.
L'autre,
il me sort Heynckes.
Heynckes.
Ouais, voilà. Oui. 75 berges, le mec.
72. Quand 72 par contre, il faudra le prénom. Hein.
Oui, pas de problème.
Messieurs, deuxième question. Qui a dit qu'il devrait essayer de 40 mètres ?
Quentin.
C'est Quentin. Ouais,
le retour acrobatique de Ronaldo, c'est Zlatan Ibrahimovic qui l'a chambré par rapport à son but marqué contre la Suède, contre l'Angleterre plutôt, puisqu'il est suédois.
Exactement, quelle année ?
Novembre 2012, le 14 novembre
2012. Oui, Léo, là, c'est une victoire d'équipe. Là, c'est un point d'équipe. Oh, bravo à Quentin et Léo.
Je n'ai pas été assez rapide.
Tout a été dit, effectivement, c'est Zlatan voilà, qui a réagi.
Il a fait du Zlatan, comme il l'a dit en conférence de presse.
Voilà. Alors, justement, suite à ce but, il y a eu beaucoup de réactions, d'éloges, surtout sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, quel joueur a tweeté ? On est très peu à pouvoir faire ça.
Quentin, est-ce que ce serait pas Peter Crouch ?
Ouais, c'est fort. C'est fort, messieurs. Peter Crouch, qui effectivement, voilà, toujours dans l'humour. On sait, on connaît l'humour anglais et l'humour de Peter Crouch.
En fait, il a fait le retourné à 2m30, apparemment.
C'est ça. Ouais.
C'est la taille de Peter Crouch.
Ouais, il fait pas 2m30, Peter Crouch. Mais c'est vrai.
Ah, mais le coup, moi j'ai l'impression que son coup fait 1m déjà. Donc, et comme son cou est rattaché directement à ses hanches, ça fait 2m30 à peu près.
Peter Crouch et sa fameuse célébration du robot. Messieurs, là, Xavier, Jean-Marc, ça fait 3-0.
Là,
ça fait 3-0 ouais, pour Quentin.
Et LeBron James aussi qui a réagi d'ailleurs. C'est oui. La star de la NBA.
Il y a eu quelques.
En NBA aussi. Ouais,
bon, ça va, on va pas non plus.
Voilà, c'était une anecdote à 0 points.
Allez, messieurs, un qui suis-je après cette anecdote, effectivement, à 0 points. Ben, je suis un fils de footballeur, pardon. Je suis né le 25 avril 1988. Je commence ma carrière en France, à Ajaccio, où je suis rapidement adoré des supporters. Je retourne dans mon club formateur en 2010, à Bordeaux, où je m'impose en attaque petit à petit. Grand, je suis la risée des journalistes, mais je
marque... Xavier. Diabaté.
Check Diabaté. Ah, oui, bravo. Quentin, vous l'aviez, ça ?
Oui.
Il allait l'avoir.
Grand, je suis la risée des journalistes, mais je marque toujours beaucoup de buts. La preuve, dans mon nouveau club, j'ai marqué autant de buts que ce que j'ai fait de matchs. D'ailleurs, comme Cristiano Ronaldo... J'ai marqué un doublé face à la Juve cette semaine. Je suis Cheikh Diabaté. Bien joué, Xavier. On remonte un peu.
Bon, c'est bon, c'est pas Fanny.
D'accord, c'est pas Fanny. Maintenant, il faut remonter à des.
Oui, on remonte à des.
Voilà.
Non. Oui.
Et voilà. Et pour remonter à des, il va falloir répondre à cette question, Jean-Marc et Xavier. Pour quelle raison 60 fans de Leicester se sont vus offrir un abonnement d'un an pour la prochaine saison au King Power Stadium ? Personne l'a vu ça.
60 femmes, donc.
60 supporters ont été tirés au sort d'ailleurs, c'était ce week-end.
Supportrices.
Non, supporters, fans.
Supporters,
fans.
Ah, ok.
50 non, supporters.
Mais moi, voilà.
Oui.
Autant pour
Xavier, il a entendu le mot
femme.
Non.
je me suis trompé.
C'est pas ça.
Désolé.
C'est fan. Pas
donc,
soucis.
C'est des fans qui vont. On va
60 fans ont reçu un abonnement d'un an. Pour l'année prochaine au stade de Leicester.
C'est
pour quelle raison
Pour le.
60.
Leur fidélité.
Non. C'est pour un anniversaire.
Ah, parce que c'est. Ils ont tous né le même jour.
Non.
Que le.
Vrai mec Xavier, président d'un club, je pense qu'il nous trouverait des. Non, c'est pas ça.
Quentin.
C'est beaucoup plus simple.
Quentin, peut-être qu'ils sont tout simplement supporters ou abonnés à Leicester depuis un certain nombre d'années.
Non, c'est pas l'anniversaire d'un fan, c'est un cadeau de quelqu'un à ses fans. Qui est capable dans un club de faire un cadeau comme ça, messieurs ?
Quentin.
C'est un chanteur, un artiste ?
Non.
C'est un joueur de Leicester, peut-être ?
Non. Je vous demande pas le nom parce qu'il est imprononçable. D'ailleurs, je vais devoir vous le prononcer.
Ah, c'est le président du club. C'est le président du club qui a fait cadeau.
Exactement, c'est Vichai.
Oui, Vichai.
Ah, j'espère que vous êtes prêts. Srivaddhanaprabha, qui est le propriétaire de Leicester. Il a fêté ses 60 ans et en son honneur, le club va offrir 60 abonnements pour la saison prochaine à 60 fans qui ont été tirés au sort. Et c'était donc ce week-end.
Ça vaut un point, ça.
Et ça vaut un point.
3-2.
Il a fallu un peu vous...
Oui, bon...
Bon,
désolé.
Xavier, Jean-Marc, en 2 points. Quentin, Léo, 3 points. Je pense que ça va être une question de rapidité, la prochaine question. Un stade mythique a été renommé ce week-end en Europe. De quel stade s'agit-il ? Ouh, vous l'avez pas vu ?
Pas vu ! C'est où ?
Vous l'avez pas vu, c'est où ? Je ne veux pas dire le pays.
Mais non, mais oui. Attends, un stade dans un pays, il y en a quand même.
Et oui, mais...
Si tu dis le pays, c'est mort. Mais moi, je l'ai pas vu cette info.
Alors le
regarde-le et hop, il se touche les yeux.
Je cherche.
Non, faut le déconcentrer. J'arrive à parler.
Ce que je peux vous dire, c'est que c'est le nom de le stade. C'est le nom d'un joueur qui a été donné au stade.
Léo.
Léo.
C'est le stade de l'Ajax, je crois, qui est renommé Johan Cruyff.
Cruyff. On dit Cruyff, exactement.
Cruyff.
Forcément.
On l'accorde. Obligé de l'accorder.
Ah oui, bien joué. Non, mais bien joué.
L'Ajax d'Amsterdam a officiellement annoncé ce jeudi que son stade mythique, l'Ajax Arena, l'Amsterdam Arena, ça a plusieurs appellations, est désormais renommé Johan Cruyff Arena. Edwin van der Sar a même dit « Johan Cruyff est le plus grand joueur de l'histoire de l'Ajax. En partie grâce à lui, l'Ajax est un grand nom ici, dans notre pays et à l'étranger. C'est sympa que le stade porte son nom. » Effectivement, c'est sympa. Bravo Léo. Et ça fait 4-2, messieurs. Cette semaine, Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City, a expliqué sa célébration téléphone. En connaissez-vous la raison ? Quand il marque, il met ce...
Léo, c'est par rapport à Griezmann et Drake, non ?
Non.
Non,
ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir.
Moi aussi. Ah, il porte, il fait le signe du téléphone avec son pouce et son.
Jean-Marc, pour un rapport avec sa femme.
Xavier, c'est parce qu'il n'appelle pas souvent sa famille.
Non. Mais on apprend, il y a un rapport, Jean-Marc.
Parce qu'il n'appelle pas souvent sa sœur, son frère.
Non, sa femme.
Sa femme. Son chien.
Non, mais il y a quelque chose comme ça.
Sa femme.
Oui. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être plus sa femme. Peut-être pas sa femme. Ah. J'ai qu'à donner la réponse.
Ah, son ex. Son ex-femme.
Alors pourquoi ? Qu'est-ce que. Pour quelle raison ?
Ben. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais inventer. Non. Je sais pas pourquoi.
Ah, Quentin, peut-être que. Soit l'ex, soit lui a grillé. Une
non, c'est
via
pas
le téléphone.
Non, c'est
non.
Pas
non. Mauvais esprit.
Oui.
Mauvais esprit.
Je vais donner le point à Xavier et Jean-Marc. Ah, c'est un message pour son ex petite amie qui ne répondait pas à ses appels quand il était au Brésil. Et il a dit quand j'ai été transféré à Manchester City, elle m'a envoyé un message. Visiblement, il a pas trop envie de la revoir. D'accord. Messieurs, on accélère un peu. Qui a dit ? Il m'a comparé à un chien. Ce n'est pas bien. Il doit respecter les chiens.
Jean-Marc.
Oui.
Balmont.
Non.
Bon, le pauvre Balmont. Ça, je me semble l'avoir vu, là, cette histoire.
Mais oui, vous l'avez tous vu.
Oh là 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 là. Il me
semble... Léo.
Oui.
C'est Mourinho.
Non.
Oh. Léo. C'est Pep Guardiola.
Aïe.
Léo qui. Mais c'est la bonne réponse, Léo. Ça fait 5 points pour vous. C'est Pep Guardiola en conférence de presse avant le derby de Manchester.
Ah, oui,
le technicien parlait de Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba et de Zlatan Ibrahimovic, entre beaucoup d'autres joueurs. Vous ne l'avez pas vu, ça ?
Bien joué, si. Non, je l'ai vu. Non. Je l'ai vu, mais ce n'est pas revenu. Ça n'a pas été connecté au cerveau. J'ai oublié en tout temps.
5-3. Je vous offre une question à 2 points, monsieur, pour vous refaire et vous offrir un éventuel but en or. Une question à 2 points, donc. Dans une semaine, place à la Coupe de France. Le PSG se déplace à Caen et dans l'autre demi-finale, deux clubs de National s'affrontent, les Herbiers et Chambly. Et le match a déjà commencé puisque des hymnes ont été sortis ces derniers jours. Pouvez-vous me donner le nom des deux chanteurs qui ont composé chacun des hymnes, Xavier ?
Philippe Catherine et Francis Lalanne.
Ouais, c'est fort, c'est fort.
J'ai vu cette chanson pourrie qu'ils ont sorti les deux.
Alors, surtout Philippe Catherine.
Xavier. Mais alors, justement, Philippe Catherine a composé une chanson complètement déjantée pour les Herbiers, avec un clip qui est sorti cette semaine.
Ouais, il est en concert, là, on dirait. Non,
on va s'écouter un extrait. Donc ça
c'est Philippe Catherine quoi.
C'est Philippe Catherine, voilà, tout à fait. Donc et ensuite il y a une autre ambiance à Chambly où c'est Francis Lalanne qui a repris son tube La Maison du Bonheur pour l'adapter au club de l'Oise. On va écouter ça.
Allez
tout
Chambly, allez nos joueurs, allez Chambly.
Est-ce que vous auriez une corde, Quentin, s'il vous plaît ?
C'est pour les encourager, donc.
Donc c'est pour les encourager, ce n'est pas pour les déstabiliser, mais c'est bien pour encourager.
Là, sur celui-là de Lalanne, franchement, il manque plus qu'une corde et il se pente de tout avant de rentrer sur la terre.
Courage à eux.
Messieurs, on est à la dernière question et 5 partout.
Alors, je tiens à préciser quand même, c'est la première fois dans l'histoire d'Oxygoute qu'une question vaut 2 points.
C'est vrai. Oui. Voilà. C'est vrai.
Donc, on invente les règles. Alors...
Xavier, qui est du tempérament à contester, il le prend avec grand plaisir.
On est d'accord, Quentin, on est d'accord qu'il y avait 2 réponses dans la question.
C'est pas faux.
Voilà.
Ah non, oui. Maintenant, je comprends pourquoi ça valait 2 points.
Voilà,
il fallait donner 2 noms.
Allez, messieurs, dernière question.
Si t'en avais donné un.
S'il vous plaît, on est déjà à la bourre. Xavier, dernière question. Un fait assez rare pour être souligné dans ce quiz. Que s'est-il passé dans les arrêts de jeu entre Cardiff City et Wolverhampton ?
Quentin.
Oula, Quentin,
il y a eu 2 pénalties ratées. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu un premier pénalty de raté et un second qui a été raté ensuite et ça a fini en... C'était un petit peu tendu entre les deux, on va dire.
Donc les joueurs de Cardiff City ont loupé 2 pénaltys dans les arrêts de jeu alors qu'ils étaient menés 1-0. Donc victoire de Wolverhampton. Il faut savoir que les deux clubs en plus se disputent les access sites pour monter en première ligue. Et donc du coup...
Qui a loupé les pénaltys ?
Cardiff.
Que
Cardiff.
D'accord,
l'entraîneur de Wolverhampton a été un peu virevoltant, on va dire.
Oui, légèrement, ouais.
Ouais, je pense que le joueur, il a pas dû bien dormir, non ? Si c'est le même qui a tiré les deux.
Je pense que là, ouais, c'est vrai que ça va être difficile.
Bah, il est pas nu dans un pub.
Xavier.
Séché au-dessus du bar.
Il est encore d'ailleurs, je crois.
Il est en train
d'écouter Francis Lalanne en plus, donc il faut faire attention.
faut faire attention à lui. Donc c'est Léo et Quentin qui remportent ce quiz. Félicitations. C'est Xavier qui a...
C'est la vision du mec.
Il remporte le prix du grand phénomène, Xavier, c'est sûr.
Bah, en tout cas, il a gagné. Félicitations. Il a gagné. Non, ouais,
félicitations. Bon. Encore une défaite.
Ramton. Quoi ? Encore une défaite ? Non. Voilà.
Oh, comment le faire démarrer ? Non, mais bien joué, bien joué. Bien joué.
Merci, messieurs. Bon, je sais que vous avez aimé ce son de Philippe Catherine, alors je vais demander à la régie de nous le mettre en générique pour se quitter. Merci de nous avoir suivis pour cette 19e émission d'Oxyfoot. Retrouvez l'émission sur le site de la radio occitanie.fr, rubrique podcast, mais aussi sur notre site partenaire footpi.fr. Retrouvez-nous aussi sur le compte Twitter de l'émission @oxyfoot. Merci à mon équipe. Quentin, Léo, Xavier. Merci à Jean-Marc Saunet, mon ami invité aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci à Jean-Louis Arzac en Résie. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission d'Oxyfoot. Bonne semaine à tous.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt.
En rouge et noir. Les Vendéens sont pas si fous. Partiront pas sans croire en vous. Sans croire, sans croire. Partiront pas sans croire. Sans croire, sans croire. Partiront pas sans croire. On les attendait pas à ce niveau-là. Comme des Écossais, ils n'ont jamais baissé les bras. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est fantastique de faire partie d'une équipe. C'est comme des planètes qui s'alignent, se dispersent et se replacent en ligne. As-tu déjà fait partie d'une équipe? C'est magnifique de faire partie d'une équipe. Les Vendéens sont pas si fous. Partiront pas sans boire un coup. Sans boire, sans boire. Partiront pas sans boire. Sans boire, sans boire. Partiront pas sans boire. Je lève mon verre à tous les petits gars des herbiers. Que ni l'or, ni l'argent n'ont caressé. Les Vendéens sont pas si fous. Partiront pas sans boire. Je lève mon verre à ces peuples massacrés qui n'ont jamais su oublier la Vendée. Le rouge, le sang de notre ennemi. Le noir, pour notre deuil. Le rouge, le sang de notre ennemi. Le noir, pour notre deuil.
Sans doigt sur un HF, je viens te parler de VHF. Grosse dalle, grosse frappe, grosse et la recette. C'est la revanche de la province sur Paname. L'éternel duel de David contre Jonathan. La différence de niveau, je la vois pas trop. De toute façon, je suis nul en match, calcule pas les divisions. On monte sur la capitale pour la victoire. Ce soir, je suis comme Jeanne Masse, en rouge et noir. Je crois pas aux contes de fées, mais j'espère une chose. Que soit la petite bête qui mange la grosse. Toute une ville, tout un peuple derrière une équipe. Circulaire, mid-sizer.
En rouge et noir. Les Vendéens sont pas si fous. Partiront pas sans croire en vous. Sans croire, sans croire. Partiront pas sans croire. Sans croire, sans croire. Partiront pas sans croire. Je lève mon verre à tous ces gens qui ont dit non. Qu'ils aient eu tort ou bien raison. Ils ont dit non, 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 un peuple massacré. Je lève mon verre, oh, un peuple consacré. Je lève mon verre, oh, 8-5,
8-5,
8-5,
8-5.
Je lève mon verre, oh, 8-5. Je lève mon verre.